европейски.
Cruzamento da Europa.
Раскручиа Европей.
Сталродроми тис Европис.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. La Commission européenne d'Ursula von der Leyen affiche de nouvelles et grandes ambitions pour l'Union européenne, par exemple avec le pacte vert ou la souveraineté numérique. Pour mener à bien ces projets, l'Union européenne a besoin d'un budget conséquent. Il est en discussion en ce moment à Bruxelles et dans les capitales européennes, mais l'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède, soutenus par l'Allemagne, n'entendent pas augmenter le budget de l'Union, à l'inverse de la France et de la plupart des autres pays. L'Union européenne aura-t-elle les moyens de son ambition? Rien n'est moins sûr. En tout cas, la bataille du budget a bel et bien commencé. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Valérie Ayère.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputée Renaissance, toute nouvelle eurodéputée. Hein. Vous êtes élue depuis quelques mois, six mois.
Oui, depuis mai dernier.
Et vous êtes déjà rapporteur RE à la fin de la commission des budgets du Parlement européen.
C'est cela.
On dit la commission des budgets.
Commission des budgets, effectivement.
Il y en a plusieurs.
On a une approche différente. En France, on parle plus de commission des finances. Au Parlement européen, c'est la commission des budgets.
Alain Lamassoure, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien ministre et ancien eurodéputé. Combien de mandats?
J'ai fait 5 mandats, dont un mandat où j'ai présidé cette commission des budgets, et un autre mandat où j'ai présidé la commission du contrôle budgétaire.
Bon, Christian Schubert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes correspondant écho à Paris du quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung. J'aurais pu dire Guten Tag.
Guten Tag.
Et à Bruxelles, nous rejoignons Jean-Sébastien Lefebvre. Il est le chef du bureau de Bruxelles du site des politiques européennes, contexte.com. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour.
Et merci d'être en ligne du studio RFI de Bruxelles. Alors Alain Lamassoure, on l'a compris, vous avez longtemps été en charge du budget au Parlement européen. Deux mots sur ce budget, je suis pas sûr que les auditeurs savent tous que l'Union européenne a un budget, et encore moins en quoi ce budget est très important dans la marche de l'Union. Malgré les apparences d'un sujet très très austère, le sujet est quand même intéressant et passionnant. Alors quelques mots sur ce budget, son histoire, sa taille, comment est-il financé, et puis à son tour, que finance-t-il?
Le budget n'est pas du tout un sujet ni austère, ni compliqué. C'est un sujet extraordinairement simple. Et c'est le plus important en matière politique, puisque c'est le financement des politiques. Et donc, l'Union européenne a évidemment un budget.
Depuis sa création.
Depuis sa création. Dès les premières années, ce budget a été financé par un impôt qui n'existe plus aujourd'hui. Tout le monde l'a oublié.
J'allais le rappeler, mais
qui était un impôt fédéral, qui était une taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises sidérurgiques et minières. Ça date d'il y a 70 ans.
C'était donc autant de la CECA.
La
Communauté européenne
du charbon d'acier. Dès l'origine, à la différence de toutes les autres organisations internationales, l'Europe, Communauté européenne, CECA, Communauté européenne, aujourd'hui Union européenne, était financée par des ressources propres, des ressources fiscales qui lui étaient directement affectées. Les organisations internationales ordinaires, l'ONU, l'Organisation mondiale du commerce, l'OCDE, etc., sont financés par les États membres, proportionnellement à la richesse des États membres. L'Union européenne a eu, dès le départ, des ressources propres. Pour financer quoi? Pour financer ce qui était au départ les principales politiques communes. C'était l'agriculture, la politique agricole, c'était la politique régionale, pour aider les régions les moins favorisés en matière notamment d'équipement public, d'investissement public, à rattraper le retard vis-à-vis des régions ou des pays plus riches. Et puis, avec le temps, avec les traités, avec les élargissements, les compétences de l'Union européenne se sont accrues. Le problème majeur à mes yeux aujourd'hui, dont jusqu'à ces toutes dernières semaines, personne n'osait parler, c'est que le plus grand handicap de l'Union européenne, c'est le gouffre entre ses compétences juridiques, ses ambitions politiques considérables rappelées par le Conseil européen, par Madame von der Leyen, soutenue par le Parlement européen, et qu'à titre personnel, je soutiens totalement, et le caractère dérisoire des moyens financiers affectés à ses priorités. Pour donner simplement un ordre de grandeur, le Conseil d'État en France, plus importante autorité juridique, estime que désormais, chaque année, environ, c'est un ordre de grandeur, 70% des règles de droit nouvelles qui s'appliquent en France, ou des droits nouveaux qui s'appliquent en France, sont décidées à Bruxelles. Alors que, quand un Français gagne 100 euros de revenus, il paye 46 euros d'impôts de contribution obligatoire, 45 sont redistribués en franco-français et 1 euro, un petit euro, et même en ce moment moins d'un euro est redistribué au niveau européen. Et si on ne comble pas ce gouffre, à ce moment-là, l'Europe sera très fortement handicapée.
Alors, quelques chiffres sur ce budget. Donc, d'abord, c'est un budget pluriannuel, c'est pas un budget annuel, autour de 1000 milliards d'euros, plus ou moins.
Non, c'est un budget annuel, mais qui est enserré dans un cadre pluriannuel. Et là, c'est une autre anomalie très grave. On peut considérer qu'aujourd'hui, l'Union européenne est une démocratie parfaite en ce qui concerne le travail législatif, est une démocratie acceptable en ce qui concerne les dépenses du budget annuel européen, où il faut l'accord des élus du peuple, du Parlement européen et des ministres des Finances. Par contre, là où le système n'est plus démocratique, c'est que ce budget annuel est enserré par un cadre de 7 ans. Pourquoi 7 ans ? Pour des raisons historiques que plus rien ne justifie aujourd'hui. Et ce cadre de 7 ans, qui fixe des plafonds par grande politique, est établi et décidé tous les 7 ans par le Conseil européen à l'unanimité. C'est-à-dire que c'est le pays le plus pingre qui a évidemment satisfaction. Et là, cette année, c'est un problème dont il va falloir absolument sortir.
Évidemment, on va parler.
Alors, l'ordre de grandeur, c'est 150 milliards d'euros par an.
Donc 1000 milliards sur 7 ans, à peu près.
Donc un peu plus de 1 milliard sur 7 ans, c'est-à-dire 1% de toute la richesse produite chaque année par l'Union européenne.
Alors 1000 milliards, on a l'impression que c'est beaucoup, c'est évidemment pas grand-chose, vous nous l'avez expliqué Alain Lemassoure. Valérie, hier, vendredi 21 février, donc les chefs d'État se sont réunis à Bruxelles pour discuter de ce budget, c'est une première réunion. Les discussions ont duré 36 heures, c'est énorme, et d'après ce qui a filtré, elles ont été rudes, entre d'un côté les radins, hein, en langage plus diplomatique on dit les frugaux, qui ne veulent pas augmenter ce budget, et qui veulent même le diminuer, et puis les amis du Nord Europe ambitieuse, on dit aussi les amis de la cohésion. Alors, du côté des radins, il y a le Danemark, l'autriche, les Pays-Bas et la Suède, soutenus par l'Allemagne. Et puis de l'autre côté, du côté de ceux qui ont plus d'ambition, en tout cas qui veulent un budget plus grand, il y a évidemment la France et de nombreux autres pays, l'Italie, l'Espagne, les pays d'Europe centrale et orientale. Bon, ce n'est pas la première fois que l'adoption du budget pose un problème, bien au contraire, mais c'est quand même très révélateur d'un état d'esprit de l'Europe aujourd'hui.
C'est révélateur, effectivement, d'un état d'esprit de l'Europe. Le budget, comme l'a dit M. Lemassoure, est éminemment politique. Et donc, on peut y cacher, on peut voir dans ces négociations, dans les difficultés, dans la bataille budgétaire, des divergences d'approche et un manque de cohérence aussi entre des États membres qui affichent des ambitions très fortes et que nous partageons, que moi je partage en tant que députée européenne, et puis ce qu'ils sont prêts à mettre sur la table. On a un différentiel qui est énorme, ça pose question, moi ça me pose question à titre personnel en tant que députée européenne, et puis on a un rôle aussi en tant que Parlement européen. Ce que je dis souvent, c'est que désormais, on est une Union européenne à 27. Il faut compter avec le Parlement européen. La donne a changé. Les États membres doivent tenir compte de la position du Parlement européen. Et alors, moi, j'ai été élue avec mes collègues en mai dernier, mai 2019. Il faut savoir que le Parlement européen est prêt depuis un an et demi et attend depuis un an et demi que les chefs d'État et de gouvernement s'accordent sur les négociations budgétaires. Ça fait un an et demi que le Parlement européen est prêt. Ça fait un an et demi qu'on a une position très forte et depuis, rien ne se passe. Effectivement, il y a eu un premier sommet au terme duquel aucun accord n'a été trouvé. Pire même, ce qu'on appelle la boîte de négociation, c'est-à-dire la proposition de travail qui a été transmise par le président du Conseil, Charles Michel, au chef d'État et de gouvernement, a été, au fur et à mesure que les heures se sont avancées, a été dépecée. C'est-à-dire que non seulement la proposition de travail n'était pas à la hauteur des attentes du Parlement européen et donc des attentes des citoyens européens, mais plus les négociations ont avancé, plus les frugaux ont fait pression et moins on a eu un budget qualitatif. Ce qu'on dit au Parlement européen, c'est mieux vaut pas d'accord qu'un mauvais accord. Donc on a le temps, le Parlement européen a pris ses responsabilités et a demandé à la Commission européenne de travailler à un plan de contingence. C'est-à-dire que si demain on n'a pas d'accord ou si on a un accord trop tardif, il ne faut pas que les bénéficiaires des programmes soient lésés au 1er janvier 2021. Et donc, on a demandé à la Commission, qui s'y refuse jusqu'à présent, en tout cas officiellement, de travailler de manière à ce qu'il n'y ait pas de shutdown à l'américaine début 2021.
Donc, il y a quand même un petit peu de temps pour faire évoluer tout ça et les discussions vont reprendre. On ne sait pas exactement quand d'ailleurs, mais elles vont reprendre. Jean-Sébastien Lefebvre, plus ou moins 1% du revenu national européen, la bataille, c'est autour de passer de... Est-ce qu'on va passer à 1,1, 1,2, 1,3, comme le réclame le Parlement. C'est-à-dire qu'on est, c'est une bataille de virgule, le budget européen.
Là, les débats actuels sont de savoir est-ce qu'on a un budget de 1,07 ou 1,06 ou 1,075 ou des choses comme ça. Alors après, il faut voir qu'à chaque fois qu'on est sur du 0,01% du PIB européen, ça fait jouer la balance de quand même une dizaine de milliards à peu près. Mais ce sont des chiffres assez petits, effectivement, quand on les ramène sur le fait que c'est une négociation sur 7 ans divisée par 27 pays. Mais ce qui bloque la discussion, en grande partie, c'est la notion de juste retour. Ça veut dire chaque pays, dans la négociation, réfléchit à « moi je donne tant au budget européen et je récupère combien ?» Et le point central là-dessus, c'est que finalement les quatre frugaux, les quatre avares, en fait, sont ceux qui récupèrent le moins. Et c'est ça, eux, qui regardent comme chiffre. Et c'est pour ça que ça bloque tout. Donc, finalement, un pays comme les Pays-Bas se dit « moi, je contribue à hauteur de 0, à peu près 43% de mes revenus nationaux au budget de l'Union ». Un pays comme la France, et ce qui explique pourquoi la France est plus volontariste, elle, ça lui revient seulement à 0, à peu près 30-35% de son revenu national brut. Et ça, cette notion de juste retour, c'est ça qui casse toute discussion commune sur qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut financer et c'est quoi finalement nos ambitions.
Évidemment, on va voir ça d'un peu plus près. Christian Schubert, alors il y a les fameux quatre frugaux qu'on a évoqués, l'Autriche, la Suède, les Pays-Bas, le Danemark, et puis un peu en embuscade, l'Allemagne. Alors vous n'êtes pas le porte-parole d'Angela Merkel, mais pour essayer de comprendre un petit peu la position allemande qui est un petit peu ambiguë, me semble-t-il.
Oui, alors il y a des conflit entre ceux qui sont frugaux et ceux qui sont moins. Je crois que c'est un conflit assez ancien, en fait. Parce que, d'abord, il y a des raisons fondamentales qui existent depuis longtemps. Alors, en Allemagne, on apprécie plutôt une approche décentralisée. Je simplifie un peu. En France, c'est plutôt centralisé. S'il y a un problème en Pyrénées, on pense que Paris doit le régler, n'est-ce pas? En Allemagne, c'est pas le cas. Alors déjà, là, il y a une certaine réticence de donner beaucoup d'argent à Bruxelles, hein, parce que c'est assez loin des problèmes de pas mal de gens.
Quand on habite Munich ou Stuttgart, on hésite déjà à donner de l'argent à Berlin. C'est un peu ça l'idée.
Voilà,
alors,
c'est
à Bruxelles,
déjà
c'est encore plus loin.
Pour pas mal d'Allemands, c'est déjà un problème. Voilà, et j'ai continué. Après, on a cette approche que l'État ne peut pas tout. Ce courant plutôt libéral, ordo-libéral, ça continue d'exister, peut-être un peu moins qu'avant, mais c'est encore là. Et puis, on a toujours une certaine approche, frugale. On a des excédents budgétaires et des réserves. Aujourd'hui, dans la crise de coronavirus, on le critique un peu moins. Il y a quelques semaines, on a encore beaucoup critiqué les excédents allemands. Aujourd'hui, on voit quand même, on est assez content d'avoir un peu de réserves. Et après, sur le concret, la proposition de Monsieur Charles Michel, le président du Conseil, ça prévoit...
C'est-à-dire
ça...
que le président, le Conseil, il faut toujours le rappeler, qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement.
Exactement. La proposition prévoit que la contribution de l'Allemagne augmente par 75% et la contribution de la France augmente par moins que 15%. Et là, les Allemands, ils disent quand même, alors cette répartition n'est pas vraiment juste. La France est un grand pays, comme les dirigeants politiques répètent tout le temps. Là, et on n'est pas d'accord, si j'ai bien compris, avec cette participation. Et deuxième raison aussi, le budget prévoit que l'agriculture reste quand même le poste le plus important. Et là, la France est le bénéficiaire le plus important. Alors, et là, l'Allemagne voudrait, je crois, réorienter un peu les dépenses vers les dépenses de futur, comme la recherche ou soutien de l'industrie, etc.
Alors, Alain Massour, c'est vrai que la PAC, la politique agricole commune, ça reste le budget principal, 31%, je crois. Ça a été beaucoup plus. Ça a été jusqu'à 40-50%.
Jusqu'à 70%.
Jusqu'à 70%. Donc, c'est en constante diminution. C'est vrai que c'est important pour la France, qui défend toujours ce budget. Mais ces querelles de chiffonniers autour d'une table, c'est pas nouveau. Ça a toujours été comme ça.
Non, ça s'aggrave sans cesse. Parce que j'évoquais tout à l'heure qu'à l'origine, le budget de l'Union européenne était financé par des ressources propres. Mais aujourd'hui, ces ressources propres ont considérablement diminué. Et l'Union européenne devient, comme une organisation internationale, financée pour l'essentiel à pratiquement 80% par des contributions nationales. Ce qui fait que, il y a, quand on discute budget aujourd'hui au Conseil européen, il y a 27 Madame Thatcher autour de la table.
Ça fait beaucoup.
C'est-à-dire que chacun, y compris le président français, regarde, compare ce qu'il apporte au budget européen et ce qu'il retire du budget européen. À telle enseigne que, à tel point que, la dernière fois, ça remonte donc il y a 6 ans, où on a négocié le cadre de 7 ans, qui s'achève cette année, et oui, on avait besoin d'unanimité, le président du Conseil européen de l'époque, M. Van Rompuy, a organisé, à l'époque l'Europe était une Europe des 28, 28 réunions bilatérales, on appelle ça Bruxelles avec humour, la méthode du confessionnal, avec chacun des chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne. Il a remis à chacun un paquet cadeau. Et donc l'anglais voulait payer le moins possible, le français voulait de plus d'argent pour son agriculture, l'allemand voulait plus d'argent pour la recherche, les polonais plus d'argent pour la cohésion. Et puis, après avoir tenu les 28 confessionnaux, il a fait une réunion plénière dans laquelle il a dit « Bon, chacun d'entre vous m'a donné son accord, j'en déduis que nous sommes unanimes. » Personne n'a contesté, ce qui fait que, pour les 7 ans qui ont suivi, le budget de l'Union européenne aura été décidé par nos chefs d'État de gouvernement sans qu'à aucun moment il n'ait discuté de ce que seraient les politiques à financer et de la manière dont elles financeraient. Et ça, on ne peut pas le renouveler cette fois-ci.
Et Jean-Sébastien Lefebvre, ça se présente de la même façon aujourd'hui, comme l'explique Alain Lamassoure, ou pas?
Oui, c'est un petit peu le même scénario. Ça veut dire que donc Charles Michel, le président du Conseil européen, est obligé de faire des bilatérales avec un petit peu tout le monde pour comprendre les positions. Et d'ailleurs, un des échecs du sommet des 20 et 21 février est attribué au manque de préparation en amont de Charles Michel sur ses réunions bilatérales, etc. Puisque comme on est dans la même logique de chacun veut récupérer quelque chose ou obtenir quelque chose, Charles Michel est obligé dans sa position de faire ses séances un peu confessionnelles.
Valérie, alors tout est un peu plus compliqué aujourd'hui parce que les Britanniques sont partis, le Brexit a eu lieu, et les Britanniques étaient des contributeurs nets à hauteur plus ou moins de 12 milliards d'euros par an. Ça complique les choses, évidemment. Il faut essayer de combler ce trou.
Bien sûr. La position de la Commission, ça a été de combler ce trou pour moitié avec une baisse des financements du budget dédié à certaines politiques et pour moitié par une hausse des contributions des autres États membres. C'est une difficulté supplémentaire, mais ça ne doit pas mettre le voile sur la réalité de l'approche de chacun des États membres. Comme l'a dit M. Lamassoure, chaque État membre est dans une logique comptable, c'est-à-dire qu'il regarde combien il met au pot commun et combien il en retire, y compris les États membres et les gouvernements les plus pro-européens. Ça relève presque du réflexe, parce qu'il y a cette part des contributions directes nationales qui est bien trop importante, et ce qu'on dit, nous, au Parlement européen, c'est qu'il faut renforcer la part liée aux ressources propres, de manière à avoir une autonomie budgétaire qui soit plus importante et réelle. Et puis je voudrais simplement réagir, si vous le permettez, à ce que vous disiez, M. Schubert, sur l'approche de l'Allemagne, sur la hausse de la contribution de l'Allemagne sur la base de la proposition de Charles Michel. D'abord, demain, avec plus de ressources propres, de fait, c'est des contributions nationales des États membres qui sont réduites. Donc, la question des ressources propres, sur laquelle on viendra peut-être tout
bien
à l'heure,
sûr,
plus
dans la deuxième
plus
partie
dans le détail, ça n'est pas un problème, c'est la solution. Et le Parlement européen a une position très forte sur la question sur la nécessité d'avancer sur les ressources propres. Et je pense vraiment, en tant que Française, je suis extrêmement fière de la France, de la position de la France et de la position du gouvernement italien, qui sont prêts à mettre plus d'argent sur la table sans demander de chèque. Et donc ça, c'est véritablement une approche profondément pro-européenne.
Alors, le budget européen, on avait l'idée que l'Europe, c'était une union très solidaire. On découvre que c'est finalement une union de marchands de tapis. On va faire avancer un peu le débat dans la deuxième partie de l'émission. Tout de suite, on fait une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Pejske.
Cruzement toute Europa.
Raskrucia Europei.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. La Commission européenne d'Ursula von der Leyen affiche de nouvelles et grandes ambitions pour l'Union européenne, par exemple avec le pacte vert ou la souveraineté numérique. Pour mener à bien ces projets, l'Union européenne a besoin d'un budget conséquent. Il est en discussion en ce moment à Bruxelles et dans les capitales européennes. Mais l'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède, soutenus par l'Allemagne, n'entendent pas augmenter le budget de l'Union, à l'inverse de la France et de la plupart des autres pays européens. L'Union européenne aura-t-elle les moyens de son ambition? Rien n'est moins sûr. En tout cas, la bataille du budget a bel et bien commencé et on l'a compris dans la première partie de cette émission. Je vous représente les invités qui nous ont rejoints. Valérie Ayer, elle est eurodéputée Renaissance, membre de la commission des budgets du Parlement européen et rapporteur de cette commission des budgets. Alain Lamassoure, ancien ministre et ancien eurodéputé. Christian Schubert, il est le correspondant à Paris du quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ pour la partie économique. Et à Bruxelles, Jean-Sébastien Lefebvre est le chef du bureau de Bruxelles du site des politiques françaises et européennes contexte.com. Avant de poursuivre notre débat, nous allons faire un petit détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Benjamin Morante.
Bonjour Daniel.
El País a consacré un long article sur le difficile accouchement du budget européen et bien évidemment, au-delà des chiffres, c'est la dimension politique du budget qui intéresse le quotidien espagnol.
Oui, alors comme on peut le comprendre du titre, donc le papier nous parle des intrigues bruxelloises liées aux dépenses de l'UE. Car malgré la crise du coronavirus, qui fait les grands titres de l'actualité, les discussions entre les États à ce sujet se poursuivent. Et tout le monde n'a pas la même idée sur comment dépenser l'argent des contribuables européens. De combien d'argent parle-t-on juste? Alors selon El País, le cadre budgétaire de l'Union européenne pour la période 2021-2027 avoisinera les 1 040 milliards d'euros. On pourrait croire que c'est beaucoup, mais en réalité, ce budget sera le plus bas depuis 1988, nous apprend le quotidien madrilène.
Alors un budget plus étroit, on l'a compris, mais comment sera-t-il réparti? Est-ce qu'on en a déjà une idée?
Bon, alors El País nous rappelle d'abord que la nouvelle présidente de la Commission, l'Allemande Ursula von der Leyen, a fait des promesses, mais pas des moindres, puisque le Green Deal, c'est-à-dire le pacte vert en français, qu'elle a promis de mettre en place, nécessitera probablement de réaffecter les moyens. Et l'argent sera pris des ressources qui sont traditionnellement versées à l'agriculture. Or, petit problème, la France ne veut pas que les fonds de la PAC, la politique agricole commune, soient coupés. Mais il faut bien couper quelque part. Alors, faut-il toucher aux fonds structurels, ceux qui permettent d'aider les régions les plus pauvres de l'UE? Bon, là encore, ce n'est pas facile, puisqu'il y a certains pays qui s'opposent. Parmi ceux-ci, il y a aussi des pays très importants, comme des pays du sud de l'Europe, l'Espagne, l'Italie. Finalement, où prendre cet argent? Eh bien, selon El País, qui cite des sources diplomatiques, la ligne budgétaire la plus en danger ne serait autre que celle des fonds européens de la défense. Une ligne qui, comme le prouve l'histoire de l'UE tout entière, personne ne défend jamais avec une pleine conviction.
Merci Benjamin Morand, Courrier International, l'Hebdo et courrierinternational.com, le site. Jean-Sébastien Lefebvre, c'est vrai qu'il va falloir trouver de l'argent. Il y a les attributions classiques du budget européen, la PAC, la politique agricole commune et le fonds de cohésion pour essayer d'avoir une Europe un peu plus équilibrée qui bénéficie beaucoup au PECO, pays d'Europe centrale et orientale, mais pas seulement. Et puis la Commission européenne d'Ursula von der Leyen qui a affiché de grandes ambitions. Donc le pacte vert en matière numérique, en matière spatiale, pour ne prendre que ces exemples. Et pour mener ces projets, il faut un budget à la hauteur des ambitions. Il y a une contradiction un petit peu schizophrénique entre les ambitions et puis, de fait, la réalité des choses, c'est-à-dire l'argent qu'on a envie de mettre sur la table.
Complètement. Mais après, il y a aussi un autre problème, c'est que finalement, là, on est en train de discuter sur une proposition du budget qui a été faite par la commission précédente. C'est la commission de Jean-Claude Juncker qui a présenté ces chiffres et qui a proposé au départ à peu près 1130 milliards sur 7 ans. Et depuis, les États, effectivement, ont coupé, donc on est à peu près rendu à 1080. Mais donc, du coup, tous ces chiffres, toutes ces propositions, toutes ces répartitions entre les différentes enveloppes budgétaires datent d'une époque où le Green Deal n'existait pas. Et après, ce qui est vrai aussi, c'est que déjà à l'époque de Juncker, il y avait une contradiction, et qui est toujours la même, c'est qu'on demande au budget européen de faire toujours plus, mais on ne touche pas à l'enveloppe. Donc finalement, la Commission a un réflexe très simple, c'est de couper dans les plus gros budgets actuels, qui sont toujours la PAC et les régions, pour aller financer les nouveaux. Et c'est là qu'on trouve la défense, la gestion des frontières, etc.
Alors on peut rappeler par exemple que la Commission Juncker avait imaginé que par exemple que Frontex, qui gère les frontières européennes, son budget devait augmenter puisque il s'agissait de doter Frontex de 10 000 gardes frontières et gardes côtes à l'horizon 2024. Tout ça, ça a un coût évidemment. Ça, c'était déjà dans le projet de l'ancienne commission, la commission Juncker.
Tout à fait. Tout à fait. Mais aussi, par exemple, dans la précédente commission, il y avait déjà la création d'un fonds de défense pour aider au développement de matériel, de véhicules, d'équipements communs aux Européens via des projets. Et le fonds aurait été doté d'à peu près 11-12 milliards d'euros, sauf qu'aujourd'hui, il ne reste déjà plus que 6 ou 7 milliards, selon les versions en discussion. Donc c'est toujours le problème, c'est qu'il y a des grandes ambitions, puis finalement, quand on voit combien ça coûte, les États se disent « bon, ben, on va couper ». Et après, la question, c'est finalement, est-ce que ça sert à quelque chose de financer des grandes priorités avec si peu d'argent, si ce n'est créer de la déception, puisque finalement, les moyens ne sont pas à la hauteur d'une des ambitions et des enjeux.
Alors, cette discussion sur le budget met en évidence une querelle vieille comme l'Europe, entre ceux pour qui l'Europe est un marché et ceux qui pensent que l'Europe doit s'affirmer en tant que puissance plus que jamais, donc dans un monde qui a beaucoup changé et où l'Europe n'est plus justement le centre du monde, Alain Lamassoure.
À ma connaissance, aucun dirigeant européen n'a proposé un doublement ou un triplement du budget européen. Or, si nous voulons financer les ambitions européennes déjà acceptées par tous les gouvernements. Au niveau, à un niveau crédible, il faudrait y mettre des moyens financiers qui seront de cet ordre de grandeur. Moi, je voudrais insister sur le fait qu'il y a des mécanismes de décision qui, toutes choses égales par ailleurs, fâchent ou réconcilient. Le mécanisme actuel dans lequel le budget européen est financé par des contributions nationales ne peut pas aboutir à quoi que ce soit d'efficace. Parce qu'il oblige tout le monde, même les plus pro-européens, à raisonner en termes de juste retour. Par contre, le bon système qui réconcilie, c'est le financement par un impôt payé par tous les contribuables, toutes les entreprises, tous les citoyens. Pourquoi est-ce qu'en France, j'ai été longtemps élu de la région Aquitaine, à aucun moment dans la région Aquitaine, on s'est posé la question de savoir si l'Aquitaine payait ou recevait plus du reste de la France? Il n'y a pas de problème de juste retour dans les régions françaises. Pourquoi ? Parce que les budgets de les politiques tant régionales que nationales sont financées par l'ensemble des contribuables français. Et donc, il faut avoir le courage de dire, il faut revenir au principe qui reste inscrit dans les traités européens, mais qui n'est plus appliqué aujourd'hui, ce qu'on appelle ressources propres, c'est-à-dire trouver parmi les impôts existants ou les impôts à créer, un impôt qui soit payé par tous les contribuables, et à ce moment-là, on ne fera plus ce calcul infernal qui empêche le budget européen d'augmenter. Alors évidemment, politiquement, c'est difficile, parce que déjà, l'Europe n'est pas spontanément populaire dans nos opinions publiques, mais si, dans un discours politique, vous, dans la même phrase, vous employez le mot « Europe » et le mot « impôt », vous n'êtes pas sûr d'être applaudi. Mais tant que vous n'aurez pas le courage de poser la question et de le faire, à ce moment-là, vous n'arriverez pas à progresser.
Alors, on va entendre Christian Schubert, évidemment, sur ce sujet, mais Valérie, effectivement, il y a la tentation d'avoir que l'Union européenne ait ses ressources propres, comme ça a été le cas, comme l'expliquait Alain Lamassoure, au début de l'existence de ce budget européen. Et là, il y a quelques pistes sur la taxe carbone, sur les taxes sur le recyclage du plastique. Qu'est-ce qu'on peut dire là? Où en est la réflexion dans les couloirs européens de Bruxelles?
Exactement. Alors, le Parlement européen a affirmé une position très forte est très clair. Il n'y aura pas d'accord sur le cadre, le budget 2021 sans avancer sur la question des ressources propres. Alors, il y a différentes pistes de ressources propres qui sont sur la table aujourd'hui. Deux types, disons, des ressources propres dites vertes et des ressources propres en lien avec le marché intérieur. Les ressources propres vertes, ça peut être une contribution plastique qui est sur la table, qui a été proposée par la Commission, qui est soutenue par le Parlement européen, qui a été proposée par Charles Michel.
Ça se traduit par quoi, cette proposition?
C'est à la tonne d'emballage plastique non recyclé. Ça pourrait représenter 7 milliards d'euros par an en termes de recettes. Donc ça, c'est un exemple de ressources propres dites vertes. Il peut y avoir, ce qui existe déjà, le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle le marché ETS, qui est une ressource qui existe déjà, mais qui va directement dans le budget des États membres. Il y a, vous l'avez souligné, le futur mécanisme d'inclusion carbone aux frontières. L'idée, ça n'est pas de créer des taxes supplémentaires à la charge des citoyens européens, c'est de taxer les entreprises les acteurs qui ne sont pas vertueux en matière climatique, par exemple, et ou de taxer les entreprises qui bénéficient du marché intérieur mais qui n'y contribuent pas. Exemple type, la taxe GAFAM. Il faut qu'on puisse avancer sur la taxe sur le digital qui a été mise en œuvre en France et dans d'autres États membres, qui est aujourd'hui en discussion au niveau de l'OCDE. Et donc ça, c'est un exemple de taxe en lien avec le marché intérieur. On peut envisager peut-être une taxe sur les transactions financières. La fameuse assiette commune consolidée sur l'impôt des sociétés qui est complètement enlisée dans les discussions aujourd'hui, mais qui serait une véritable avancée pour, dans un premier temps, harmoniser les taux d'imposition à l'échelle de l'Union européenne. Et donc éviter l'évasion et le dumping fiscal. Et puis à terme, avoir une part de cet impôt harmonisé qui serait fléchée directement dans le budget européen. Donc ça, c'est un changement d'approche, mais c'est fondamental pour avoir un budget qui soit suffisamment souple, autonome et efficace.
Alors paradoxalement, Christian Joubert, tous les pays européens ne sont pas d'accord sur cette idée d'avoir une taxe propre, enfin des ressources propres à l'Union européenne qui ne pénalise pas les citoyens européens. C'est le cas de l'Allemagne qui n'est pas très favorable à cette idée d'avoir des ressources propres. Ça s'explique comment ?
Non, ça dépend de quoi on parle. Je crois qu'il y a une évolution aussi dans la position allemande. Par exemple, si j'ai bien compris, on est assez ouvert sur la question taxation du CO2 et donner ça à l'Union européenne. Là, je crois qu'il y a une ouverture, certainement, et sur d'autres pistes aussi. Par exemple, la politique industrielle, c'était il y a...
Mais sur les GAFA, par exemple, taxer les grandes entreprises du numérique, là, l'Allemagne est très réticente.
Bon, ça dépend. Alors, il y a quand même une coopération, ça bloque plutôt au niveau coopération avec les États-Unis, où ça avance pas tellement. Alors là, je parle d'une taxe GAFA plus large que européenne, là, parce que qui est un projet mondial.
Dans un premier temps, cette taxe pourrait être européenne avant d'être mondiale.
Oui, c'est la question. Est-ce que c'est raisonnable d'avoir une taxe seulement au niveau européen? Alors, il y a pas mal de choses.
Pour l'Allemagne, la question se pose. Évidemment, si on taxe les GAFA, les Américains vont taxer BMW, Mercedes, Volkswagen et Audi. Ce qui pose un problème pour les Allemands un peu structurel.
Oui, c'est ça. C'est un élément. Mais c'est aussi la question générale. Une taxe, sur des activités économiques qui sont par nature mondiales. Est-ce qu'on peut faire quelque chose seulement en Europe? Alors là, il y a des blocages en Allemagne.
La question, est-ce que l'Europe peut donner le là? Est-ce que l'Europe peut donner, faire le premier pas et inviter les autres à suivre? C'est aussi ça la question, si on veut être un peu leader à la face du monde.
Oui, mais quand même, il reste le problème politique. Comment est-ce que je peux vendre ça à mes électeurs? Et si vous devez vendre un budget qui a comme conséquence que la charge pour l'Allemagne augmente 3 fois plus que la charge pour la France, c'est difficile à vendre dans un pays où elle a quand même une partie d'extrême droite maintenant, où on a dans la CDU, on a un courant de plus partiellement eurosceptique, et c'est compliqué. Mais j'ai dit, il y a des évolutions, et dans l'accord de la grande coalition, comme on dit dans le gouvernement, entre la SPD et la CDU, c'est prévu une augmentation du budget européen. Ça veut dire qu'on est prêt à faire augmenter le budget européen.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, la bataille du budget européen. Nous sommes avec Valérie Ayer, eurodéputée Renaissance Europe, c'est-à-dire La République en Marche, avec Alain Lamassoure, ancien ministre et ancien eurodéputé, avec Christian Schubert, correspondant à Paris du quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung, et avec Jean-Sébastien Lefebvre, chef du bureau de Bruxelles du site des politiques européennes, contexte.com. Il est en duplex du studio RFI de Bruxelles. Alors, on a compris toute la difficulté, Jean-Sébastien Lefebvre, tous les intérêts contradictoires des uns et des autres, la complexité du monde dans lequel on vit, qui finalement paralyse un peu l'Union européenne, parce qu'évidemment, on a un peu oublié que la construction de l'Union européenne, c'était dans un premier temps un mot-clé qui était la solidarité entre les États européens. Et ça, quand on est à Bruxelles, on a l'impression que ça s'est un petit peu éloigné des préoccupations.
C'est pas moi. Oui, ça, quand on voit la dureté des débats qui a eu lieu lors du dernier sommet, et l'attitude intransigeante du Premier ministre néerlandais en particulier, qui disait de toute façon, moi j'ai pris un livre avec moi, je peux y passer la nuit et je suis pas pressé, etc. Et il n'est pas question que je négocie quoi que ce soit. Finalement, on se dit, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Mark Rutte est venu et une impression qu'il ne voulait pas payer de toute façon, etc. Après, il faut voir que cette solidarité, elle existe quand même dans les faits. Je veux dire, sur la dernière programmation budgétaire, sur 2014-2020, la Pologne, par exemple, aura reçu l'équivalent de 100 milliards d'euros de fonds européens. C'est l'équivalent de 2 à 3% de son PIB tous les ans. On est à peu près dans la même ordre de grandeur pour un pays comme la Hongrie qui... Une bonne partie de leur croissance aujourd'hui dépend des fonds européens, c'est l'enjeu. Donc la solidarité, finalement, il y a des mécanismes qui ont été créés, qui sont hérités du passé, qui font qu'elle continue de fonctionner. Mais la question plus fondamentale qu'on pourrait poser aujourd'hui, c'est finalement, est-ce que cette solidarité est toujours bien orientée? Est-ce que on n'aurait pas à financer peut-être des régions autres, peut-être un peu plus le sud de l'Europe, qui a souffert de la crise des 10 dernières années et qui reçoit assez peu, parce que malgré tout, comparé à la moyenne européennes, ils sont toujours au-dessus, ou des régions françaises qui sont en phase de désindustrialisation, parce que des industries partent parfois à l'Europe de l'Est. Donc, le problème, c'est que finalement, ce budget, on dit qu'on va le moderniser parce qu'on va faire un fonds de défense, parce que on va gérer les frontières, etc. Mais la modernisation, elle est que partielle. Je crois que c'est Monsieur Lamassoure qui l'a dit un peu plus loin. C'est un budget qui est hérité des schémas passés. Il est sur 7 ans parce que voilà, il y a longtemps, on faisait comme ça, et qui répond plus forcément aux besoins actuels. Donc on essaye de faire bouger un petit peu les choses comme on peut, sans faire de grandes révolutions, et finalement ce sont des ajustements à la marge, mais qui voilà ne correspondent plus aux besoins réels.
Valérie, hier, Emmanuel Macron est très irrité par la tournure des événements. Je crois qu'il a dit ce 21 février, on ne peut pas avoir le lundi des ambitions et le jeudi quand on arrive et qu'il faut payer, dire qu'on n'a pas les moyens. Alors est-ce que ce discours est un peu perçu, compris par les autres pays européens, ou est-ce que le côté franchise que l'on connaît d'Emmanuel Macron choque aussi à Bruxelles?
Je pense qu'il est perçu, compris par les autres États membres, qu'il est perçu, compris très bien au Parlement européen. Et c'est principe de réalité. Effectivement, on a des ambitions. Il faut être cohérent et mettre l'argent nécessaire sur la table. Et moi, je pense aussi que bon, la responsabilité aujourd'hui, en termes de calendrier, elle n'est plus du côté du Parlement européen. On a affirmé une position. Maintenant, on attend que le Conseil prenne une décision. Le Conseil, donc on ne sait pas quand aura lieu le prochain Conseil, mais il y a aussi une réalité que je déplore. Je considère que la Commission, version Ursula von der Leyen, aurait dû réviser la proposition de la Commission qui date de 2018 sous l'ère Juncker. Et la logique aurait été que... Ursula von der Leyen a été élue en juillet dernier sur un projet extrêmement ambitieux que nous avons, et nous l'avons soutenu, nous, Parlement européen. Nous avons demandé à la présidente d'ajuster cette proposition pour la mettre en cohérence avec les ambitions sur le New Green Deal, les ambitions sur le digital, etc. Rien. Rien.
Pour le moins,
donc la réalité, l'Europe, il y a une incohérence. L'Europe puissance ne se construira pas avec un budget sans ambition.
Alain Lamassoure, le budget, ça pourrait être aussi le reflet de nos valeurs. Alors la Pologne et la Hongrie, pour nous prendre que ces deux pays ont bien profité des fonds européens, Jean-Sébastien Lefebvre nous l'expliquait, en tournant paradoxalement le dos à la démocratie. Alors, on a vu en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, que l'Europe est souvent le dernier rempart pour défendre l'état de droit. D'où l'idée de mettre en place un mécanisme de conditionnalité. Voilà, si vous ne respectez pas les règles de l'Union européenne, vous aurez moins d'argent, voire pas du tout. Et puis, imaginez donc des sanctions. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui doit être pris en compte aujourd'hui?
Ça fait l'objet du débat. Je doute qu'on arrive à se mettre d'accord là-dessus, parce que un certain nombre de chefs de gouvernement, notamment de pays d'Europe centrale, mettront leur veto. Et je crois que, en effet, il est absolument indispensable de lutter contre les dérives en matière de violation de droits de l'homme ou des principes de l'état de droit qui tentent certains dirigeants aujourd'hui. On a d'autres instruments pour le faire que celui-là. Je crois qu'il vaut mieux ne pas se lancer dans des combats qui sont un petit peu perdus d'avance. Par contre, je reviens sur un autre problème de méthode pour faciliter la vie de tout le monde. Il y a un sujet sur lequel jusqu'à présent personne n'a travaillé. Ni la Commission européenne, ça devrait être son rôle, ni le Parlement européen jusqu'à présent, malgré mes efforts, mais je suis sûr que Valérie sera plus efficace que moi, ni les États membres. Qu'est-ce que j'appelle le principe de constance? Si on construit l'Europe, on doit le faire à coût constant. Ça n'est pas parce qu'on transfère une compétence de Paris à Bruxelles que ça doit être plus coûteux et que le contribuable doit payer davantage. Je donne un exemple très concret, très important et très actuel. L'agence Frontex dont on a parlé tout à l'heure. Nous sommes en train d'édifier une agence européenne de garde-côte et de garde-frontière. Donc on ambitionne assez rapidement d'avoir 10 000 personnes. Alors il y a deux manières de le concevoir. Ou bien on considère que ça doit s'ajouter aux garde-côtes et garde-frontières nationaux qui existent aujourd'hui. Et à ce moment-là, en effet, ça va coûter plus cher, ça a un coût, ça va être plus bureaucratique et ça va être plus pagailleux. Et c'est absurde. Ou bien on considère ce qui est le bon sens, ce que tout le monde comprendra, y compris les électeurs du Front National, que pour être efficace, il faut garder les frontières au niveau européen et qu'il faut maintenant affecter au niveau européen la totalité de nos douaniers et tous ceux de nos policiers des frontières qui ne sont pas dans les aéroports. Et à ce moment-là, pour le même coût, on aura une efficacité plus grande. Et ça, je propose qu'on le fasse systématiquement chaque fois qu'il y a un transfert de responsabilité de compétences et que l'on mette en réseau toutes nos cours des comptes nationales et européennes pour vérifier que sujet par sujet, on aboutit à plus d'efficacité pour un coût égal, voire pour un coût moindre.
Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? Donc, il y a trois acteurs, hein, le Parlement européen que vous représentez, Valérie Hier, le Conseil européen avec les chefs d'État et de gouvernement et la Commission. Qui va avoir le dernier mot? Qui peut répondre à cette question et comment les uns peuvent un peu influencer la fin de l'histoire? Peut-être vous, Valérie Hier, du Parlement européen.
Je le redis, comme je le dis régulièrement, on attend que les États membres avancent. Une fois qu'il y aura un accord au Conseil, nous, à ce stade, au Parlement européen, on ne peut que réaffirmer nos positions, construire et imposer le rapport de force, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, c'est un rapport de force.
Mais à un moment, vous allez voter ou non ce budget.
Exactement. Une fois qu'il y aura eu un accord au niveau du Conseil, la balle revient dans le camp du Parlement européen. On n'a pas, on ne peut pas amender, c'est oui ou c'est non. Donc, soit on passe au vote, et oui, ça peut être non, effectivement. Je vous l'ai dit, par exemple, il y a différentes positions fortes du Parlement européen. Si on n'a pas d'avancée sur les ressources propres, ce sera non. Ce sera non, c'est très clair. Alors, soit on passe directement au vote et c'est oui ou non, soit on adopte une résolution pour avoir une position politique du Parlement en disant, on prend acte, il y a tel et tel élément qui ne nous satisfont pas, on demande à ce qu'il y ait des avancées, des évolutions, et donc revoyez votre copie. Donc là, la balle revient dans le camp du Conseil. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs lors des dernières négociations en 2013. C'est le principe de la négociation aussi. Hein. Chacun, nous, au Parlement européen, on a une position très ambitieuse. C'est pas le 1,3% de la richesse nationale cumulée. C'est pas un chiffre qui a été identifié au doigt mouillé. C'est vraiment chacune des politiques a été prise en compte, quels sont les besoins, etc. Bon, on sait que chacun doit faire des compromis.
Christian Schubert, est-ce qu'à un moment il est nécessaire que les Français et les Allemands s'entendent sur ce budget, sinon ça va bloquer?
Oui, c'est toujours comme ça en Europe, n'est-ce pas? Et je crois, voilà, on va trouver cet accord. L'Allemagne a un intérêt de trouver un accord avant l'été 2020, parce que en été 2020, la présidence de l'Allemagne commence pour 6 mois et c'est
donc l'Allemagne
c'est
plutôt sera en première ligne.
C'est ça, le rôle de la présidence, c'est plutôt être une espèce de arbitre, n'est-ce pas? Et là, on veut éviter d'être dans une espèce de conflit d'intérêts.
Oui, où les Allemands seraient juges et arbitres.
Oui, pour cela, on veut trouver un accord avant cette période-là. Et oui, je crois que ça va se faire. Oui, il y a une espèce de... Le problème, il y a une espèce de vide politique en Allemagne parce que la leadership de la CDU n'est pas décidée. Mais bientôt, j'espère, on va trouver une solution là.
Alors c'est vrai aussi, on ne l'a pas dit, mais à l'inverse de la France, qui Emmanuel Macron dispose d'une majorité parlementaire, la plupart des pays, que ce soit les Pays-Bas, l'Allemagne, sont dans une fragilité, une coalition gouvernementale toujours très très fragile, qui peut évidemment basculer d'un jour à l'autre. Évidemment, ça influe sur les décisions que Mark Rutte, le Hollandais, ou Angela Merkel, l'Allemande, sont susceptibles de prendre. Jean-Sébastien Lefebvre, c'est vous qui avez le mot de la fin. Quelle image donnerait l'Union européenne au reste du monde si ce budget est trop étriqué et ne met pas en cohérence les ambitions et les moyens?
Une image d'une Union qui est pas... qui n'est pas responsable en quelque sorte, ou qui n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Après, ça peut avantager certains autres acteurs mondiaux, la Chine ou les États-Unis, si finalement ils se disent que bon, bah, l'Union européenne de toute façon n'a pas les moyens de ses ambitions, ça peut les arranger. Donc c'est plus une question que doivent se poser les Européens entre eux, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire, à quel coût, quelles sont les priorités. Donc c'est le débat qu'on a actuellement, et finalement que le dernier sommet était un échec, c'est pas non plus très grave. La fois d'avant, il a aussi fallu 2 sommets pour y arriver. Le tout, c'est qu'à la fin, on arrive à quelque chose d'à peu près cohérent, même si ça s'annonce très difficile, puisque oui, c'est une discussion de marchand de tapis, ce n'est pas un grand moment de solidarité européenne, et on voit mal soudainement surgir une grande ambition, à moins qu'il y ait d'ici là un bouleversement.
Alain Astour, d'un mot, est-ce que vous pourriez conclure ?
Qui peut nous donner des leçons ? Les États-Unis ont vécu 12 ans sans être capables d'adopter un budget. Alors que c'est un seul pays et 2 partis politiques. Nous sommes 27 pays et des dizaines de partis politiques. Je souhaite qu'il y ait une crise. Je souhaite que le Parlement européen ait le courage de faire ce qu'il n'a pas eu le courage de faire quand j'en étais membre, c'est-à-dire de dire non. Alors il y aura une immense crise, alors on dira c'est épouvantable, c'est encore une crise européenne. Oui, mais l'Europe n'a fait de grands progrès que lorsqu'ils étaient proportionnels aux crises correspondant à de vrais sujets. La crise sera la bienvenue sur le budget européen en 2020.
Vive la crise! Merci à tous les 4 d'avoir été au Carrefour de l'Europe sur la page de l'émission Des Infos sur nos invités. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe, 2 possibilités, le tout nouveau site RFI.fr ou l'appli RFI Pure Radio. Vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast de l'émission. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desesquel, où que vous soyez, à Bruxelles, Berlin, Paris, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir. Les deux